Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Foi, chemin de liberté. Je suis aujourd'hui en compagnie de Raymond Richard. Bonjour Raymond.
Bonjour, bonjour Émilie, bonjour à tous.
Alors de quoi allons-nous débattre aujourd'hui ?
Eh bien, il se trouve que pendant les vacances, j'ai lu un bouquin qui s'appelait Une foi qui change le monde. Et alors ça m'a amusée parce qu'il y a 40 et quelques années, j'ai dû lire un bouquin qui s'appelait Changer le monde, une tâche pour l'Église. C'était de Vincent Cosmao, un dominicain, et je me souviens que ça m'avait branché. Je me suis dit, ah ben voilà pourquoi je suis chrétienne. Voilà, ça me paraissait tellement évident que la foi en Dieu, et on devait changer le monde. Puis c'était après le concile, on était optimiste pour l'Église, alors que maintenant.
Voilà, c'est un peu. Les auditeurs ne voient pas le geste, mais c'est un geste de délitement. Alors, Raymond, d'emblée, ce qu'on peut dire, c'est que dans le livre d'il y a 50 ans, il n'y avait pas de point d'interrogation. C'était l'Église pouvait changer le monde, c'était une affirmation.
Ça allait de soi que l'Église. Surtout, on sortait du concile, on avait l'impression qu'une page se tournait pour mettre l'Église en phase avec le monde. Et c'est vrai que l'Église a fait cet agir d'un mento, on disait. Avant 68. Et là, 68, ça a été eh bien, la révolution qui a changé le monde dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'espaces sociaux. Donc, l'Église était en phase et on avait l'impression qu'elle pouvait y prendre son rôle. Et puis même, dans certains cas, dans les Églises, on considérait que l'Église faisait partie des autorités instituées. Enfin, je veux dire que là, de ce point de vue-là, on a quand même eu une vision de l'Église un peu différente, un peu plus humble, dirons-nous.
Alors, l'Église qui change le monde, ça n'est pas nouveau.
Alors, c'est amusant parce que, de fait, d'emblée, on dit l'Église qui change le monde ou bien une foi qui change le monde. Une foi, déjà, c'est différence. On n'est plus dans l'institution, on est dans la responsabilité de chacun et de chacun ensemble. Mmh. Et puis, dans la Genèse, alors on sait bien que la Genèse, c'est un conte, mais c'est un conte pour croyants. Et dans la Genèse, une des interrogations que Dieu adresse à l'homme, d'abord, la première, c'est « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Donc, et cette question, elle résonne toujours, elle résonne encore aujourd'hui. Parce que, alors, le frère, c'est... Bon, à l'époque, c'était Caïn et Abel, mais aujourd'hui, c'est les frères qui sont... Il y a ceux qui sont dans la Méditerranée, il y a ceux qui, enfin bon, il y a ceux qui en bavent chez les talibans, il y a ceux qui sont dans le fin fond de la Bolivie et qui sont victimes de la drogue. Enfin, les frères, ils sont partout et les chrétiens ne peuvent pas être partout. Ou bien, eh bien justement, dans le cas tu fais de ton frère qui interroge chacun, ça veut dire que chacun, là où il est et à sa manière, il peut agir quelque part. Et ça peut être, je pense... Mais pardon, je vais évoquer ça. Je me suis cassé la figure en vélo cet été, un soir, et il y a une personne qui est sortie de chez elle et qui m'a dit « Je suis pompier. Madame, comment ça va ?» Et puis, elle m'a donné un verre d'eau. J'ai dit merci, mais je n'ai même pas pris ni son nom, ni son adresse, ni rien du tout. Mais ce geste, c'est tout petit. Mais
c'est le bon samaritain.
Elle aurait pu rester chez elle.
Eh oui, elle aurait pu. Ah ouais.
Et voilà. Et puis... Comme je, bah par chance, je n'ai rien, puisque je suis debout et là, je n'ai rien eu, simplement quelques bleus, mais bon, passons. Je me dis, ça, c'est ce geste tout petit, et puis c'est en même temps la Croix-Rouge créée par Henri Dunant et qui est maintenant. Alors, dispatché dans le monde entier.
Justement, l'Église a toujours été là pour aider les plus pauvres et les plus fragiles, même si c'est vrai que dans l'histoire, on retient souvent, surtout aujourd'hui, un rôle de l'Église dans l'histoire plutôt négatif. Aujourd'hui, on va souvent parler évidemment des croisades, de ce genre de choses, de la violence, mais l'Église et la solidarité, c'est quelque chose qui a traversé les siècles.
Oui, parce que finalement, les croisades, c'était une affaire politique. Et à l'époque, le politique était mélangé au religieux. Et puis, les gens qui s'embarquaient pour la croisade, c'était d'abord, justement, la croisade des enfants. Elle a péri misérablement et tous les enfants sont morts. Donc, ce n'était pas une croisade d'individus. C'était... le politique, en fait, il faut aussi affiner le politique. Et c'est vrai que l'Église a participé à cet affinement du politique, mais qu'on songe les esclaves. Alors on voit Saint Paul écrit à un de ses amis en lui disant « Je te renvoie ton esclave, il m'a bien servi. Et il lui demande d'être indulgent vis-à-vis de l'esclavage. Mais saint Paul ne se combat pas contre l'esclavage. Mmh. Et si on regarde bien, l'esclavage, il a disparu en 1865. Et puis le racisme, et puis bon, enfin, il y a des tas de choses qui ont tellement de temps. Parce que changer le monde, ça veut dire prendre des dispositions politiques qui viennent diminuer le privilège des uns ou des autres. Et aujourd'hui, par exemple, je vais faire un peu une excursion. Quand j'étais prof d'histoire, on enseignait la Révolution, les droits de l'homme, vous rendez compte, et puis ces rois qui avaient des droits ou ces seigneurs, et qui gna gna gna. Mais aujourd'hui, l'Europe, le monde occidental, par rapport au reste, mais c'est pratiquement, il exploite. Enfin, bon. En le pillage du tiers-monde, a dit, voilà. J'allais. Moi, bon, il y a à boire et à manger. Mais quelquefois, on oublie justement que l'on a construit notre richesse sur peut-être moins de richesse ailleurs.
Alors, dans ce monde d'aujourd'hui, Raymond, justement, vous faisiez référence tout à l'heure à nos frères qui peuvent être dans des pays très éloignés, mais justement ces pays se sont un peu rapprochés, si j'ose dire, à l'heure de la mondialisation, puisqu'on est au courant aujourd'hui de tout ce qui peut se passer dans le monde, et très rapidement. Alors comment est-ce qu'on peut répondre avec l'Évangile à toutes ces problématiques? Comment est-ce qu'on peut, en chrétien, être acteur de solidarité?
Alors, comment être acteur de solidarité? Bon, eh bien, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que pratiquement, à chaque époque, et comment on peut être chrétien, moi, je n'ai pas la réponse. J'ai la réponse, pour moi, personnellement, lorsque je rencontre quelqu'un qui est dans la panade. Bon, eh bien, il y a peut-être, je vais peut-être accompagner, je vais peut-être faire des papiers, je vais loger, emmener, accompagner. Bon. Il y a ceux qui vont faire des repas. Il y a ceux qui vont. Tout à l'heure, je vous ai dit, ben, la personne là qui m'a dit, vous voulez boire quelque chose? Comment ça va? Il y a aussi simplement cette attention, bonjour à l'autre. Et aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on est dans un monde devenu tellement, tellement individualiste que finalement, souvent d'ailleurs, l'expression c'est son problème pour chacun. Et donc, non. Et par contre, dans l'évolution qu'on peut avoir, alors il y a eu les hôpitaux, l'Église y a pris son rôle, il y a eu enfin, plein de choses. Justement, avec le monde chrétien, on est sorti du dieu d'épanage rapide.
Alors, qu'est-ce que c'est que le dieu d'épanage rapide?
Eh bien, il y a des problèmes de mauvaise récolte, eh bien, on va faire des processions et on prie Dieu pour que la pluie vienne. Et dans l'Antiquité, il y avait des dieux pour chaque chose. Il y avait le dieu des sources, il y avait le dieu, voilà, des dieux pour le vent, des dieux pour la mer, des dieux qui vivent pour tout. Avec le dieu des juifs puis des chrétiens, c'est pas dieu d'épanage rapide, mais Dieu souffle à un certain nombre de personnes des solutions. Alors il souffle à saint Vincent de Paul une manière d'être auprès des plus pauvres. Il souffle à Jean Eudes une manière de faire l'école pour tenir compte des enfants les plus qui ne vont pas à l'école. Il souffle à Monseigneur Cardine, ou au prêtre Cardine, avant d'être Monseigneur, il était prêtre, l'attention à l'ouvrier. L'ouvrier vaut tout l'or du monde, mais ça, à l'époque, ça, oh, quel scandale. Bon.
Et en fait, il y a régulièrement des figures d'église très fortes qui se sont levées et qui ont pris leur part dans tout ça.
Voilà, l'abbé Pierre, par exemple, si on interroge les gens encore en France, on a, vis-à-vis de l'abbé Pierre, bon, ben, c'était hiver 54, c'était, vous rendez compte, cet enfant qui est mort. Et là, et encore aujourd'hui, on s'émeut devant un enfant, je pense à ce petit garçon qui était noyé sur les plages de Turquie. Donc là, tout le monde, bon, ben oui, mais n'empêche qu'on n'accueille pas tous les migrants. Et qu'on a de larges parts de la société qui disent, mais c'est pas possible, enfin bon. Est-ce souhaitable? Je ne sais pas, mais je veux dire qu'à chaque époque, l'Esprit Saint, c'est Dieu, donc, souffle aux uns ou aux autres une solution ou des solutions. Et puis, comme ça correspond à un problème ou à une situation, eh bien, on voit des gens se lever autour de celui qui a imaginé une solution. Et des choses se font. Et quelque part, c'est fascinant. C'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse directe dans l'Évangile. Il n'y a pas de réponse directe dans les encycliques des papes. Il n'y a pas de... Non, simplement, on dit, attention, faites attention aux plus pauvres, faites attention à la nature. Et aujourd'hui, voilà un chant qui est complètement... qui est le chant nouveau, peut-être. Comment faire attention à la nature qui est donnée à tous les hommes? Et comme on n'a qu'une seule terre pour tous les hommes, il va bien falloir faire quelque chose, là. Et pour la terre, et pour ceux qui sont sur la terre. Parce que la terre, elle continuera. Hein, ça, mais l'homme sur la terre, ça, c'est moins sûr, si on n'y prend pas garde.
En fait, ce qu'on constate, c'est une grande créativité, c'est le mot que vous avez employé quand on préparait cette émission, dans tous les domaines.
Oui, et cette créativité, je trouve que c'est ça qui est signe d'espérance. Parce que souvent, bon, bah, c'est vrai qu'on peut dire, oh là là, le Covid. Bon. Et le Covid, c'est vrai que ça a aggravé la misère dans certains pays. Mais en même temps, qui aurait imaginé qu'on puisse penser une vaccination au niveau européen pour l'ensemble des pays européens? Alors on me dira, bah oui, mais on a oublié les pays, et puis les plus pauvres. Bon, d'accord, les plus pauvres des tiers-monde. Mais on a pensé aussi qu'il fallait qu'il y ait des vaccins fournis gratuitement à ces pays. Mais je pense que là, l'Esprit-Saint se fout pas mal de... Enfin, n'est pas enfermé dans le tabernacle, n'est pas enfermé dans... quelque part. Il souffle partout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fascinant. Mais eh bien, il faut faire vivre cette solidarité entre les uns et les autres.
Alors, tout à l'heure, on parlait d'espérance. Je ne vais rien apprendre à nos auditeurs. Cette rentrée est peut-être pour certains un petit peu déprimante. Et c'est le cas depuis plusieurs années. On a beaucoup d'informations qui arrivent, d'ailleurs, de toute la planète, sur une actualité qui parfois qui est même souvent très lourde. Comment faire communauté aujourd'hui? Comment porter cette solidarité aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut trouver cette force dans sa foi?
En fait, la question que vous posez, c'est comment faire société? Comment créer des liens avec les uns et les autres? Alors là, eh bien, je trouve que la solution, elle se trouve dans l'Évangile. C'est assez intéressant parce qu'il y a un groupe social qui vraiment, vraiment n'avait aucun intérêt pour quiconque dans l'Antiquité, c'était les enfants. Et dans l'Évangile, alors que les apôtres disent, bon, il y a des gamins qui viennent autour de Jésus, il arrive, il est par là, donc on voit les gamins se précipiter. Bon. Et les apôtres qui veulent dégager la piste. Et Jésus dit, en prend un, s'assoit, et donne comme exemple l'enfant. L'enfant que l'on va, dont on va prendre soin. Mm-hmm. Je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, c'est très amusant parce que lorsque les gens... demande de baptême, souvent ce texte a leur suffrage. Parce que c'est... Alors d'abord parce qu'ils viennent d'avoir un enfant, et que l'enfant... Alors ça aussi c'est fantastique, un Dieu qui se fait homme, qui vient comme enfant. C'est-à-dire qu'il se confie aux hommes en enfant, en disant, eh bien, l'incarnation du règne de Dieu, c'est vous qui prenez soin de l'enfant, c'est vous qui prenez soin des plus pauvres, et dont le paradigme c'est cet enfant. Et alors, bon, c'est vrai que ce que je vois, c'est le changement de regard. Le changement de regard, c'est-à-dire que dans la société, on a des échanges calculés. Tu travailles, je te paye. Bon, alors c'est vrai que quelquefois, il y en a qui... Et là, Dieu pense aux échanges calculés. Et il dit dans le livre des Proverbes qu'il ne faut pas que les balances soient faussées. C'est-à-dire que les relations, elles restent bonnes. Elle reste juste. Mais à côté des relations justes, il faut aussi des relations empreintes de bienveillance, de gratuité, d'amour. L'enfant que l'on prend dans ses bras, bon, eh bien, on ne lui a pas donné les 125 grammes de lait ou de je ne sais pas quoi, et on ne l'a pas simplement changé la couche, mais on le prend et on lui parle. Et est-ce qu'on parle à ceux qui sont les plus pauvres? Et là, le faire société, ça veut dire changer de regard, y compris sur... les plus pauvres, celui pour lequel on imagine des lois sans lui demander son avis. Mais je crois que quelquefois, on pourrait lui demander son avis, parce qu'il aurait peut-être quelque chose à dire. Et peut-être que s'il avait quelque chose à dire, ou s'il pouvait dire, vous tenez à moi, et Je vais prendre un exemple très concret dans l'école, par exemple. J'étais prof. Alors, je devais enseigner, il y en a qui devaient enseigner le théorème de Pythagore, et moi, je devais enseigner la Déclaration des droits de l'homme, pour faire bref. Mais en fait, ça marchait d'enseigner le Pythagore, je ne sais pas, mais l'histoire, ça marchait d'autant plus qu'il y avait une bonne relation avec les élèves. En fait, les élèves, je ne sais pas si les droits de l'homme, ça les motivait beaucoup, mais ce que je sais, c'est que le fait d'être en relation avec des enfants, avec des adolescents, le fait de les respecter, le fait de leur dire « bon, ben là, effectivement, tu t'es planté », mais ce n'est pas toi qui s'est planté, c'est ton devoir qui est planté. Mais toi, c'est autre chose. Et alors, je crois que c'est toujours distinguer la relation, faire tenir compte de la personne. Je crois que c'est vraiment améliorer les rapports humains, c'est...
Non, c'est la base.
On s'éloigne du bouquin. Non,
mais non. Et justement, on va conclure sur cette belle idée. Est-ce qu'on peut justement donner les références de ce livre, Une foi qui change le monde ?
Oui, c'est un livre d'Étienne Grieux. C'était édité chez Bayard. C'est fait, et ce qui est intéressant, c'est que c'est fait de plusieurs articles qui ont été associés sur des thématiques approches, mais qui posent ces questions et nous proposent le désir de vivre ensemble. Enfin, vraiment, Une foi qui change le monde, édité chez Bayard, d'Étienne Grieux. Étienne Grieux, c'est le recteur du Centre Sèvres.
Rien que ça.
Rien que ça.
Merci.
Mais c'est lisible, et puis ça correspond tellement à des situations que l'on connaît.
Très bien. Merci beaucoup, Raymonde, et on se retrouve très bientôt.
Merci.